Cinquième partie. Le matin, donc, le fermier était revenu seul aux Alisiers. Mais il s'était arrangé à n'y arriver qu'après-midi pour que Thérèse ne s'étonnât pas de l'absence de Marcel au dîner. Il resta au champ jusqu'à la nuit, dit en rentrant un mot très bref à sa fille, puis monta dans la petite chambre de Marcel pour faire lui-même le rassemblement de ses pauvres hardes. En pliant le gilet noir des grandes occasions, il glissa un écu de 5 francs dans le gousset, moins par bonté que par une sorte de remords. Il n'oublia ni le paroissien, ni la flûte, ni l'acte d'origine de Marcel, fit du tout un gros paquet, descendit pour atteler lui-même le cheval, afin de n'avoir aucune explication à donner, et le lança au grand trot sur la route qu'il avait parcourue le matin. Félix Prenel n'aimait pas les secrets à deux, et d'ailleurs, il voulait recevoir de sa main les 100 francs stipulés au contrat. Il arriva donc à l'hôtel après 9 heures. M. Delalire, lui dit-on, dirigeait son concert et ne pouvait quitter la salle pour le moment. Si monsieur voulait entrer... Il ne répondit qu'en tournant le dos et s'en alla d'assez mauvaise humeur. Il battit le pavé pendant un quart d'heure, tenant toujours son gros paquet sous le bras. Puis il remonta le perron de l'hôtel et allait entrer lorsque Marcel Auvernet sortit. « Où donc va-t-il si tard ?» se demanda Félix Prenel en le suivant avec toutes sortes de précautions. Il n'eut pas à aller bien loin. « Tiens, c'est un poulet !» se dit-il en voyant le jeune homme glisser sa missive dans la boîte aux lettres. « À qui peut-il bien écrire ? Il n'aurait pas l'audace de faire des adieux à Thérèse à ce garnement. En tout cas, je surveillerai le facteur. Ma fille n'aura pas de correspondance clandestine. » « Ouais, que de complications et d'histoires! Il faut bien espérer que nous touchons au dernier chapitre !» Quand Marcel fut hors de vue, le fermier revint à l'hôtel, réussit cette fois à attraper au vol le directeur affairé, puis, après avoir reçu son argent et remis au portier le paquet de vêtements, il se hâta de partir. « Ni, l'échelle est tirée » pensa-t-il. Le lendemain matin, Thérèse vint à son père d'un air très grave. « Qu'est-ce à dire ? » fit-elle. « Marcel n'est pas rentré de toute la nuit à ce que prétend Alphonse. »« Cela ne m'étonne pas trop, ma fille. »« Vous savez donc où il est ? » ?»« Il voyage pour son agrément. » Et le fermier tourna sur ses talons en sifflotant. Mais Thérèse s'élança pour l'empêcher de sortir. « Qu'avez-vous fait de Marcel ? » s'écria-t-elle. « Je n'en ai rien fait du tout. Fi donc, tu ressembles à une poule en colère. » Il a trouvé bon, et c'était sage, de nous priver pour quelque temps de sa précieuse compagnie. Il va voyager de son état, faire son tour de France, ou de Suisse, ou de tout ce qu'on voudra. « Mon père, insista Thérèse d'un ton plus calme, je vous en prie, répondez-moi tout droit. Où est Marcel? Quand est-ce qu'il reviendra ? Il m'est impossible de te dire où il se trouve en cette minute. Dans un wagon de chemin de fer, je suppose. » « Je ne suis pas curieux, moi. Je n'ai pas demandé à voir la feuille de route. »« Quand il reviendra, aussitôt que tu seras mariée, ma belle. » Le rouge de l'indignation montait aux joues de Thérèse. « Pour qui me prenez-vous, mon père, que vous ayez jugé nécessaire d'éloigner ce garçon ? Pour une fille un peu folle qui devrait être trop heureuse d'avoir un père plus sage qu'elle. » Le cœur de Thérèse se gonflait, ses yeux se remplissaient de larmes, mais elle ne voulait pas pleurer. Si elle n'eût écouté que sa fierté, elle fût sortie sans ajouter une parole, mais elle se fit humble pour apprendre quelque chose de plus. « Dites-moi au moins ce qu'il va faire et à quelle sorte de gens vous l'avez laissé. Est-ce un enfant, ce grand Marcel, qui a la tête et les épaules de plus que moi ? Il se débrouillera dans le vaste monde comme tant d'autres l'ont fait avant lui. Il est en bonne main, soit sans crainte, et dans une société plus huppée que la nôtre, parbleu. C'est un directeur de musique qu'il a pris avec lui, un homme qui donne des concerts, comprends-tu ? Bien instruit et qui parle à fil avec des mots longs comme mon bras. Est-ce un honnête homme ? Je le crois bien, il m'a payé comptant. » Ici, le fermier s'arrêta, s'apercevant qu'il venait de commettre une bévue. « Ah, très bien !» fit lentement Thérèse. « Comme ça, vous avez vendu Marcel ?» Elle n'ajouta pas un mot et s'en alla. Toute sa violence était tombée. mais dans la solitude de sa petite chambre, elle pleura, pleura, comme si son cœur se fendait. Au bout d'une heure, Alvine, ne voyant pas descendre sa maîtresse, se hasarda à monter doucement l'escalier. « Entre !» cria Thérèse, à qui vint une pensée subite. « Écoute !» dit-elle en tournant vers la servante consternée, son beau visage baigné de larmes. « C'est très mal ce que je vais te faire faire, mais on se défend comme on peut. Mon père a laissé hier Marcel là-bas. Je ne puis savoir où il est maintenant. Va, cours, informe-toi, demande partout un directeur de musique, un homme qui donne des concerts. Il ne doit pas y en avoir là par douzaine. Quand tu l'auras découvert, parle à Marcel et dis-lui qu'il ne s'inquiète pas, que je trouverai moyen de le faire revenir, car je l'aime bien. Sais-tu pourquoi je t'y envoie au lieu d'y aller moi-même? Parce que je ne saurais comment lui dire cela. Va maintenant. » Alvine partit pour complaire à sa maîtresse. Avec bien de la peine, en se faisant rire au nez plus d'une fois par les passants auxquels elle demandait un directeur de musique dont elle ne connaissait pas même le nom, elle finit par apprendre qu'une troupe d'artistes en passage avait logé la veille dans un hôtel qu'on lui indiqua. Elle y courut et apprit que ceux qu'elle cherchait étaient partis par le premier train du matin. On ignorait leur destination. Thérèse ne dit rien en recevant cette nouvelle désappointante. Elle espérait vaguement que Marcel trouverait moyen de lui faire savoir quelque chose. Mais Félix Prenel y avait mis bon ordre. « Une lettre expédiée de là-bas hier au soir doit arriver ici vers midi, calcula-t-il. » À cette heure-là, il descendit au petit bureau de poste du village et attendit l'arrivée de la voiture qui faisait le service des messageries. « Quelque chose pour moi ?» demanda-t-il, tandis que le buraliste ouvrait le sac de cuir des dépêches. « Non, mais une lettre pour mademoiselle Thérèse. »« Ça revient au même. Donnez-la-moi. Quelle chance que je me sois trouvé ici pour épargner une course à votre facteur. » Chemin faisant, il déchira l'enveloppe. « C'est court et bon, » se dit-il en parcourant des yeux les quelques lignes où Marcel avait mis tout son cœur. « Tiens, ma pipe qui vient de s'éteindre. » Et, tortillant le papier, il s'en servit pour allumer son affreux brûlot. Ce fut une triste journée et la première d'une longue série de journées semblables. Thérèse, pâle et froide, ne disait rien. Elle évitait son père car elle se sentait incapable de lui parler d'un ton indifférent. Lui-même n'était pas tout à fait à l'aise en sa présence. Le mot de sa fille, « Vous l'avez donc vendu ?» lui résonnait encore aux oreilles d'une façon désagréable. Avec cela, il avait d'autres ennuis. Tout le pays connaissait Marcel. On avait besoin de lui pour les bals des fenaisons et il ne se passait pas de jour sans que quelque députation vînt le quérir. « Laissez-moi tranquille, » disait le fermier impatienté. « Je ne suis plus son maître, il est parti. »« Parti ? Mais comment ? Mais pourquoi ? Il fallait le retenir. » Et les commentaires dallaient leur train. Félix Prenel n'avait pas prévu cela. Quand Marcel demeurait aux Alisiers, on avait jasé. Maintenant qu'il n'y était plus, on jasait bien davantage. Et puis, savez-vous, Thérèse y a mis son cœur à ce qu'il paraît. Elle maigrit, la pauvre fille. Elle n'est plus à moitié aussi jolie qu'elle était. Mais pourquoi Marcel a-t-il parti, le nigaud? C'était le moment de rester, non pas? Oui, mais celui des Alisiers l'a fait disparaître tout tranquillement, ni vu ni connu. Un beau matin, ce pauvre Marcel a été comme enfoncé dans le trou noir. On n'en a plus eu de nouvelles. Toutes les filles du pays sont furieuses d'avoir perdu leur beau musicien. Pour beau, c'est vrai qu'il l'était, et du talent jusqu'au bout des ongles, ce garçon qu'on avait cru quasiment idiot pendant je ne sais combien d'années. Comme on se trompe, le total de tout ça, c'est que Félix Prenel est un vieux scélérat. Sur ce point, tout le pays, en blouse ou en jupon, était unanime. La fin de juillet, août avec ses moissons, le clair et lumineux septembre, le roi des mois aux montagnes, s'écoulèrent lentement, péniblement, pour le maître et la maîtresse des Alisiers. Une tension constante régnait dans le rapport journalier. Thérèse s'observait. Il ne lui échappait aucune parole violente ou irrespectueuse. Elle était triste, voilà tout. Elle s'inquiétait pour Marcel. Une anxiété constante la consumait. L'incertitude, la pire de toutes les épreuves, ne laissait ni trêve ni repos à son esprit. « Peut-être est-il malade, » pensait-elle. « La campagne doit lui manquer. Je suis sûre qu'il souffre du mal du pays, le soir, quand il est tout seul. A-t-il seulement quelqu'un qui écoute sa belle musique et qui la comprenne comme je la comprenais, moi ?» Félix Prunelle devinait à moitié ce qui se passait dans le cœur de sa fille. Il eût donné quelque chose pour pouvoir lui dire un beau matin « Ton Marcel se porte bien, j'ai reçu de ses nouvelles. » Le proverbe dit pourtant « loin des yeux, loin du cœur ». Ah ça, ils ne sont donc pas toujours vrais, les proverbes ? Il y avait dans la commune deux personnes à qui la soudaine disparition de Marcel avait causé au contraire un ineffable soulagement, Alphonse le maître valet et Léon Tonin. Pour le premier, c'était simplement une satisfaction bête. Il avait pris Marcel sur sa corne et se réjouissait de lui avoir fait vider la place, comme il disait d'un ton important. Mais Léon Tonin était débarrassé d'un rival. Et la meilleure preuve de la considération que Marcel avait acquise dans le pays était cette mise en parallèle avec le hardi contrebandier. « Gare en octobre, » pensait celui-ci, « je ferai jouer toutes mes batteries et qui sait si Thérèse ne me prendra pas de colère maintenant que son beau Marcel l'a planté là. Elle ne peut pourtant pas coiffer Sainte-Catherine. » Le fermier se disait la même chose, seulement ce n'était pas en Léon qu'il voyait le consolateur de Thérèse. « Il est temps que je la marie, » pensait-il par un beau soir de septembre, tout en achevant son souper au bout de la longue table. « Elle n'a pas bonne mine, sa figure et ses mains sont comme de la cire. Autrefois, elle venait s'asseoir à côté de moi à cette heure-ci, quand elle avait fini son ouvrage, et nous avions un bon petit bout de causette à nous deux. « Thérèse !» La jeune fille tressaillit. « Quoi, père ? Mets ton chapeau, veux-tu, et tu viendras avec moi au bout de bise pour voir à quoi en est le regain. Je n'y ai pas été de toute la semaine. »« Oui, père. » »« On ne peut pas dire qu'elle boude, » pensait le fermier. « C'est autre chose. » Il savait bien ce que c'était. Tous deux montèrent silencieusement le sentier qui tournait le plateau. La soirée était belle et sereine. De petits nuages rosés couraient dans le ciel plein d'une lumière opaline. Les fumées du village montaient en lente spirale, dans les chemins verts, des enfants riaient en poursuivant les chèvres indociles qui ne voulaient pas rentrer au logis, le sommet des pentes était encore doré par un dernier rayon qui s'évanouissait doucement. Le calme et le repos étaient partout, sauf dans le cœur de Thérèse. Et celui de son père, était-il tout à fait tranquille ? La jeune fille détournait la tête. Elle pensait à une soirée de mai, paisible comme celle-ci, où elle avait écouté pour la première fois une musique étrange qui n'était pas faite de sons seulement, mais d'âme et de poésie. Et elle se demandait pourquoi elle n'avait pas su, dès ce soir-là, que ce n'était pas la musique seulement qu'elle aimait. « Thérèse !» dit son père en lui prenant la main. Elle fit un mouvement comme pour la retirer, mais elle n'osa. « Depuis quelque temps, tu es toute triste et changée, ma fille. Sais-tu de quoi tu as besoin ? D'une petite diversion. Je te répète ce que je t'ai déjà dit, il faut te marier. » Il appelait cela une petite diversion. Thérèse ne put s'empêcher de sourire. « Vois-tu, rien que l'idée t'en fait déjà plaisir, » poursuivit Félix Prunelle. « J'ai un parti magnifique à t'offrir. Tu sais, le fils a... Père ?» interrompit Thérèse en s'arrêtant. « C'est inutile. Si je vous disais que je ne tiens pas à me marier, ce ne serait pas vrai. J'aime mieux me marier que rester fille. Mais si je dois changer de nom, je veux m'appeler... Savez-vous comment ?»« Ne le dis pas !» s'écria son père. « Je n'ai pas besoin de le savoir. » Il lui semblait presque que le vœu de sa fille, une fois exprimé à haute voix, deviendrait fatalement une réalité. « Je veux m'appeler Thérèse Auvernet. « J'aime Marcel, j'en suis sûre maintenant. »« Tu es folle, » dit-il. Mais il n'argumenta point, ce n'était pas dans ses habitudes. Et tous deux redescendirent aussi silencieusement qu'ils étaient montés, sans avoir jeté un seul coup d'œil sur les regains qui étaient le but de leur promenade. Cependant, le moment était venu pour Léon Tonin de faire jouer ses batteries comme il se l'était promis. On était au commencement d'octobre. Félix Prunelle allait organiser la campagne d'automne, c'est-à-dire une série d'expéditions qui devaient transporter en contrebande de l'autre côté de la frontière toutes les pièces de fromage entassées dans ces vastes caves. Le banc et l'arrière-banc des sauterelles avaient été convoqués, sous différents prétextes, à se rendre un certain jeudi soir aux Alisiers. Le jeudi matin, Léon Tonin arriva. « Quel zèle ! » s'écria le fermier, occupé à toiser le mur de sa cour, auquel on devait faire des réparations. « Tu es un oiseau matinal aujourd'hui. N'importe, on te salue. Entre et demande un verre de vin. »« J'ai à vous parler d'abord, » répondit le contrebandier. Il faut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il allait en général droit à son but. « Parle !»« Il y a longtemps que vous me tenez le bec dans l'eau, patron. Ça n'est pas agréable. J'ai 25 ans, je songe à m'établir, et sans vous mâcher la chose davantage, vous savez que j'aime Mademoiselle Thérèse depuis longtemps. Voulez-vous me l'accorder ?» Il y eut un moment de silence. Félix Prunelle était pris au dépourvu par une question aussi catégorique et qu'il n'y avait pas moyen d'éluder. « Tu nous mets le couteau sur la gorge, » dit-il en s'efforçant de rire. « Tout juste. Voulez-vous ? Ne voulez-vous pas ? C'est ainsi que je comprends les affaires, moi. »« Eh bien, mon garçon, on y réfléchira. Pas trop longtemps, s'il vous plaît. Du moment où je ne vous conviendrai pas comme gendre, vous pourrez aussi chercher quelqu'un pour entreprendre le reste, la passe, les nuits à la belle étoile et tout le trafic. » Cette fois, c'était dépassé le but. Félix Prunelle se redressa. « Si tu le prends sur ce ton, mon beau gars, tu n'attendras pas ta réponse jusqu'à demain. C'est un gendre un peu trop arrogant que j'aurai là, en vérité. Et je n'ai pas encore l'intention de me laisser mettre hors de chez moi avec ta permission. » « Quant à la passe, j'ai aussi fait ce métier-là dans le temps et je m'y remettrai aussitôt qu'il le faudra. Sur ce, bonne chance, mon ami. Vous vous en repentirez, » dit Léon Tonin en s'en allant. Le paysan était furieux et passablement embarrassé aussi, car en Léon, il perdait son bras droit. Mais le contrebandier avait décidément mis ses services à un trop haut prix. « Lui donner ma fille, à lui, » disait le maître des Alisiers. « Un joli ménage que ça ferait, ma foi. J'aimerais mieux payer les droits à la douane s'il faut en venir là. » Le soir donc, à la nuit tombante, on vit arriver, un à un, et par des sentiers différents, 9 ou 10 robustes gaillards que Félix Prunelle lui-même fit entrer dans la grande cuisine. Les domestiques avaient été congédiés, Thérèse était montée dans sa chambre. Cependant, comme les murs ont souvent des oreilles, on chuchotait d'un ton mystérieux. « C'est donc à bientôt la prochaine, aussitôt qu'on pourra. Combien donnerez-vous, patron ? 20 sous par homme, de plus qu'à l'ordinaire, comme tout a renchéri. Merci, patron, vous en aurez pour votre argent, n'ayez crainte. Nous augmenter sans qu'on le lui demande, ça n'est pas naturel, pensait-on. Fixons le jour, dit le fermier. Ah, mais il faut attendre Léon, sans lui, on ne décide rien. » « Léon ne viendra pas, mais brave, j'aime autant vous le dire tout de suite, bien que j'en ai honte pour lui. Il nous lâche, il capone. »« Pas vrai, » s'écria-t-on. « Très vrai, au contraire. Il se range, il lui est venu des scrupules, il veut faire son salut. »« Est-ce que monsieur le curé aurait passé par là ?»« C'est pas, grand bien lui fasse. Mais ne perdons pas notre temps, qui est disposé à prendre sa place ?» Silence général. « Ne répondez pas tous à la fois !» s'écria le paysan d'une voix moqueuse. « Ma foi, ce n'est pas une plaisanterie que d'avoir la direction. Léon avait bon pied et bonne tête aussi. Il connaissait toutes sortes de trucs. Jamais il ne restait côte. Du courage, on en a assez. Soldat, tant que vous voudrez, mais général, c'est une autre affaire. »« Très bien, » dit Félix Prunelle. « Moi aussi, j'avais bon pied et bonne tête dans le temps. On verra s'il en reste quelque chose. » À cette déclaration, chacun se regarda. Si le patron prenait la chose sous sa propre responsabilité, il n'y avait rien à dire. Mais on secouait la tête et l'on pensait « ça ne réussira pas, il n'est plus assez jeune et puis il ne connaît pas les trucs ». Cependant, on fixa le jour, ou plutôt la nuit, l'heure et tous les détails de l'expédition. Pour échauffer l'enthousiasme de l'assemblée, Félix Prunelle alla chercher lui-même quelques bouteilles de vieux Bourgogne qu'il gardait en vue d'occasions semblables. On but, on rit, on joua aux cartes et l'on se sépara assez tard. Après tout, se disait-on en sortant, le vieux nous fera peut-être marcher à la gloire. Mais si Léon se range, le diable sera bientôt capucin. Il y a du micmac là-dessous. Pendant ce temps, Marcel voyageait. Ses pérégrinations ne le conduisirent pas jusqu'à Pétersbourg toutefois. La célèbre troupe L'Harmonieuse honora de sa visite la plupart des villes de la Suisse romande, puis revint sur ses pas avec l'intention de passer à Besançon au commencement de l'hiver. Le ténor Bartholdi et Marcel étaient les principaux personnages de la bande. Le premier avait une voix remarquable qui, avec un peu plus d'études, eût été applaudie à l'opéra. Mais il était indolent et ne se souciait pas de la gloire qui l'eût dérangé dans ses habitudes. S'il était en veine, il chantait bien. Autrement, tant pis pour le public. On n'avait jamais vu un talent plus journalier, comme disait Amédée de la Lyre en soupirant. Vous assurez qu'il est difficile de mener un troupeau de chèvres? Eh bien, venez diriger une troupe de musiciens et vous m'en direz des nouvelles. Quant à Marcel, il travaillait ferme. Fatigué de toujours abâcher les mêmes quadrilles et les mêmes ouvertures, il supplia le directeur de varier un peu son répertoire. « On vous donnera des solos, ambitieux jeune homme !» s'écria Amédée de la Lyre enchanté. « Les autres membres du quatuor ne peuvent plus vous suivre. Vous avez pris un tel essor ces derniers temps ?» Bientôt, les solos de flûte et les duos pour flûte et piano furent la grande attraction du programme. La chronique musicale d'un journal très répandu parlant en termes flatteurs de ce jeune et modeste talent que l'on comparait à un grillon caché dans l'herbe. Chacun voulut l'entendre et le premier coup de cloche une fois donné, la grande sonnerie des louanges éclata de toutes parts. Le niveau des concerts de la lyre s'éleva sensiblement. L'auditoire de Marcel, qui avait été d'abord le public bruyant et peu esthétique des cafés chantants, se composa bientôt de la meilleure société. Quand la saison des soirées sera venue, pensait le directeur, les salons s'arracheront notre jeune artiste. Ce changement de sphère avait été un inexprimable soulagement pour Marcel. Jouer au milieu du bruit des verres, des interpellations et des plaisanteries qui sentent le vin, lui était un supplice. Cela lui semblait une profanation de son art. Mais de toute l'affaire, ce qui l'humiliait plus profondément encore était la collecte. Il fallait passer au milieu des tables en ayant à son bras la ravissante Andalouse qui, en corset de velours et jupon espagnol, pour ne rien dire de plus, présentait à chacun sa sébile et remerciait d'un séduisant sourire. C'était toujours à Marcel qu'elle octroyait le privilège de l'accompagner dans sa ronde. Il eût cédé cet honneur à très bas prix. Mademoiselle Fiorel lui témoignait certainement une préférence flatteuse, sans doute parce qu'il ne lui en marquait guère. Chacun, du reste, était aimable pour lui. Il était l'étoile du moment. Vienne l'hiver et il pouvait faire la fortune de toute la troupe. Déjà, les recettes étaient comparativement brillantes depuis que les concerts de casino à place payée avaient remplacé les soirées d'entrée libre. Mademoiselle Fiorel avait abandonné la jupe à mille pour des toilettes de ville qu'elle portait avec la grâce innée d'une Parisienne. Elle vocalisait beaucoup pour se mettre à la hauteur de sa position sociale et certains duos célèbres pour ténor et soprano enrichirent le répertoire, cette propriété commune où chacun apporte son écho comme dans un pique-nique. En somme, Marcel n'était pas trop malheureux. Mais parfois, au milieu d'un concert, il se demandait si c'était bien lui qui se tenait là sur l'estrade, prêt à saluer un élégant public. Car on lui avait appris à saluer, à porter un frac avec aisance. Le directeur voulait même lui enseigner à rejeter en arrière une mèche de cheveux par un mouvement de la tête qui est le geste de tous les grands artistes, disait-il. Mais sur ce point, le jeune homme s'était montré rebelle. Il lui prenait des envies folles de s'échapper, de courir jusqu'à ce qu'il rencontrât une forêt. Puis il pensait « Que de choses j'aurais à lui raconter au printemps !» Et il prenait patience. Il aimait ses compagnons, tout en les trouvant étonnants parfois. Il se sentait utile à toute la troupe. Amédée de la Lyre ne noircissait plus les coutures des habits de ses fils, on en avait acheté de neufs. Edgar se portait beaucoup mieux depuis qu'il avait échangé les fonctions de flûtiste contre celles de régisseur. Il toussait moins et sa mélancolie s'était éclaircie d'une teinte. Marcel aussi n'était pas sans tirer quelques avantages de sa nouvelle vie. D'abord, son talent s'était développé. Le jeune musicien avait échangé sa manière pas trop rustique contre une exécution plus savante. 2 mois d'études systématiques avaient assoupli son doigté. Il avait déchiffré une quantité prodigieuse de musique, son directeur lui avait promis des leçons d'harmonie. À Genève, Marcel avait été à l'opéra. Dans une autre ville, il entendait Rubinstein. Son goût se formait, sans pourtant que son originalité musicale s'altérât en rien. Une seule chose lui manquait pour devenir un artiste célèbre, l'ambition. « Il n'en a pas un grain », soupirait Amédée de la Lyre. Bien au contraire, il aspire à descendre, comme dit le poète. Vous verrez qu'un beau jour, il nous plantera là pour retourner à son Chaume natal. Chaume ou non, Marcel ne pensait en effet qu'aux Alysiers, et la prophétie du directeur ne devait pas tarder à s'accomplir. Faisant sa ronde de ville en ville et revenant du côté de la frontière française, la petite troupe finit par se retrouver presque à son point de départ. Elle ne fit que passer dans la ville où Marcel s'était engagé et y loua 2 voitures pour se rendre à une campagne assez éloignée dont le propriétaire voulait donner à ses hôtes le plaisir d'une sérénade. On était au premier jour d'octobre. La saison était belle encore et les nuits tièdes. De la grande terrasse qui s'étendait devant la maison, on dominait un vaste paysage, le plus riant qui se puisse voir au soleil du matin, ou quand la rouge lumière du couchant l'éclaire, mais mystérieuse à la clarté des étoiles, et comme baignée dans une transparence bleuâtre. Tout au fond brillaient vaguement les sinuosités de la rivière, et sur ses bords tremblotaient les petites lumières des hameaux. On pouvait distinguer les toits du village le plus voisin et la flèche élancée de son bijou d'église. De tous côtés se dressaient les montagnes, noires, imposantes, formant un cadre sévère à ce tableau nocturne. Tout à coup, tandis que la société se promenait sur la terrasse, les notes brillantes d'abord, puis doucement rêveuses, d'une sérénade de Beethoven, montèrent dans le silence de la nuit. Les musiciens se tenaient cachés derrière un massif de grands arbres. Personne ne les voyait, ils ne voyaient personne et pouvaient se croire seuls au milieu du calme de cette belle nuit. Marcel, tout en jouant, regardait sa montagne, la haute cime boisée qu'il n'avait pas vue depuis 3 mois et derrière laquelle dormait la ferme des Alysiers. « Si je prenais les sentiers, j'y serais en moins de 3 heures, pensait-il. Le maître ne serait pas content, je le crains. » Il n'avait pas perdu l'habitude d'appeler Félix Prenel le maître. Cependant, la montagne exerçait sur lui une sorte de fascination. Il ne pouvait en détacher les yeux. Thérèse était près, si près. Il ne la verrait pas, sans doute, la soirée était déjà trop avancée, mais il pourrait passer sous sa fenêtre, s'asseoir un instant sur le petit banc du jardin. L'air devait être si frais et si bon là-haut. Personne n'en saurait rien et cet échappé lui donnerait du courage pour attendre la fin de son exil. La tentation était trop forte. Une demi-heure plus tard, Marcel, ayant fini sa partie dans le concert, quittait la terrasse après avoir chuchoté un mot à l'oreille de son indulgent directeur et montait d'un pied léger vers sa montagne. La frontière longe la crête de la chaîne. Sur le versant français, Marcel connaissait assez mal les sentiers. Il s'y engagea cependant, montant toujours et gardant la direction du sud-ouest. Une fois arrivé au sommet, il était sûr de s'y retrouver facilement. 11 heures venaient de sonner à un clocher voisin. Marcel s'était arrêté pour compter les coups, et maintenant que la dernière vibration s'était éteinte, un silence profond régnait autour de lui. Il se hâta de reprendre sa marche. Encore 10 minutes, et il atteindrait le sommet. Tout à coup, il crut entendre des voix dans le lointain. Il lui sembla qu'on avait crié « Arrêtez !» puis que le claquement d'un fouet avait déchiré le silence. Il resta un instant indécis sur ce qu'il devait faire. Un épais fourré de buissons lui barrait le passage. Il écarta les branches et découvrit avec surprise une large charrière qu'il connaissait, mais dont il s'était cru encore éloigné. Les cris qu'il avait entendus se rapprochèrent. « Arrêtez, contrebandier du diable !» Un char à échelle parut au haut de la pente, traîné par 2 vigoureux chevaux. Ma foi, pensa Marcel, si ce n'est pas la flèche des alisiers, je serais bien trompé. L'attelage, arrivé à deux pas du fourré qui abritait le jeune homme, s'arrêta subitement. « Déchargez, les gars !» commanda d'une voix contenue un homme assis sur le siège. « Nos chevaux n'en peuvent plus. Emportez ce que vous pourrez et cachez-vous dans le bois jusqu'à ce qu'ils aient passé. Nous avons 5 minutes d'avance. » Une demi-douzaine de grands gaillards paraissaient avoir couru après la voiture car ils étaient tout essoufflés. En un clin d'œil, chacun chargea sur ses épaules une lourde pièce de fromage, mais il en restait tout autant. « Sauvez-vous !» dit le chef de la bande, Félix Prenel en personne. « Cachez-vous ! Je parie qu'ils seront assez bêtes pour passer tout droit !» En cet instant, il lâcha son fouet qui roula sur la route. Marcel fit un bond, le ramassa et le rendit au paysan. « C'est moi, maître » dit-il à voix basse. « Par exemple ! Eh bien, puisque te voilà, saute sur le char, tu pourras me donner un coup de main !» La halte, en tout, n'avait pas duré 2 minutes. Les chevaux, soulagés de la moitié de leur charge, se remirent au galop. « Nous sommes saufs !» murmura le paysan. « Pour la troisième fois, arrêtez ou bien on tire !» Le cri menaçant s'était fait entendre à 50 pas derrière eux. « Les douaniers, les voilà ! Eh bien, ma foi, non, je n'arrête pas ! Tirez si ça vous amuse !» Et un grand coup de fouet fut sa seule réponse à leur sommation. Tout à coup, un éclair brilla, une balle siffla dans l'air. « Baissez-vous !» s'écria Marcel. Au bout d'un instant, il reprit. « Entendez-vous comme le sabot traîne sous la roue? Je vais tâcher de le retirer, ça nous retarde. » Mais comme il se penchait pour cela derrière son maître, il chancela, poussa une exclamation et s'affaissa au fond du char. « Brigand !» murmura le fermier. « Il a reçu la seconde balle à ma place, ce pauvre garçon !» « Marcel !» Et, sans lâcher les rênes, il lui prit la main. « Il est évanoui, si ce n'est pis. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de continuer comme ça jusqu'au premier village où je trouverai un docteur. » En même temps, il se penchait vers Marcel et s'efforçait de l'appuyer contre lui, de façon à ce qu'il ne sentît pas trop les chaos. « Il fait si noir sous ces arbres, je ne puis pas même voir d'où il saigne. » Il avait bien besoin de venir se fourrer ici cette nuit quand je le croyais en route pour le fond des Russies. Mais au fait, s'il ne s'était pas trouvé derrière moi, j'aurais bel et bien eu la balle au fin milieu du dos. Un léger frisson le prenait à cette idée. Allons, il faut espérer qu'il en réchappera et du diantre si je le contrarie encore. Marcel ne faisait aucun mouvement. Il valait mieux pour lui qu'il n'eût pas repris connaissance, car la secousse du chat lui eût causé des souffrances insupportables. Les douaniers étaient distancés depuis longtemps. Ils avaient sans doute renoncé à leur poursuite, ou peut-être battaient-ils le bois, soupçonnant qu'une partie de la caravane pourrait bien y jouer à cache-cache. L'esprit de Félix Prenel était partagé entre son anxiété au sujet de Marcel et les inquiétudes légitimes que lui inspirait le sort de ses fromages. « Quelle nuit de guignons !» se disait-il. « Je n'imagine pas ce qui a pu mettre les gabelous sur nos traces. C'est la première fois que nous prenons cette charrière. Comment ont-ils bien pu en avoir vent, pourvu que mes gars aient l'idée de se tenir tranquilles ?» C'est égal, il faut faire mon compte d'une demi-douzaine de meules confisquées ou endommagées. Et ce garçon troué à jour qu'il va falloir accommoder. Docteur, pharmacien, charpie et je ne sais quoi encore, sans parler des complications que ça nous amènera avec Thérèse. Si ce n'était qu'il a reçu la balle à ma place, je le gronderai solidement quand il ouvrira les yeux. Quelques minutes plus tard, l'attelage suant et haletant arrivait au premier village et s'arrêtait à la porte du docteur. Félix Prenel tira énergiquement la sonnette de nuit. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-on en entr'ouvrant une persienne au rez-de-chaussée. « Un cas pressant, dépêchez-vous ! Et si c'est un effet de votre bonté, vous pourriez me donner un coup de main pour porter le malade dans la maison. » Le docteur parut bientôt lui-même à la porte. Marcel, toujours insensible, fut soulevé avec précaution par les deux hommes. « Vous me disiez un malade, » fit le médecin en fronçant le sourcil. « C'est un blessé que vous m'amenez. »« Une petite affaire de contrebande, monsieur le docteur, je vous expliquerai ça. » Marcel fut déshabillé et tendu sur un sofa, puis le docteur examina la blessure. « Est-ce grave ?» demanda Félix Prunelle avec anxiété. « Ce n'est pas mortel, à moins que la fièvre ne s'en mêle. Voyez, la balle est entrée dans le dos, juste au-dessus de l'omoplate. Deux pouces plus loin à gauche, elle eut rencontré la colonne vertébrale et c'était fini. Avant que notre patient ait repris connaissance, je tâcherai d'extraire le projectile. Vous me tendrez des instruments. » Au premier attouchement, Marcel tressaillit. « Ne bougez pas, dit le docteur, ce sera fait tout à l'heure. Vous avez perdu trop de sang, mon pauvre garçon, pour qu'il soit prudent de vous chloroformer. D'ailleurs, la balle n'est pas entrée profondément. » Marcel, à qui la sensation aiguë de l'acier pénétrant dans les chairs avait fait reprendre connaissance, mordit, pour ne pas crier, le coussin sur lequel on lui avait appuyé la tête. Mais il était si faible qu'il s'évanouit de nouveau avant la fin de l'opération. « La voilà !» dit enfin le docteur en tendant la balle à Félix Prunelle. « Gardez-la pour lui, il y a des gens qui tiennent à ce genre de souvenirs. » Le fermier se sentait tout chose. En regardant ce pauvre garçon pâle et sanglant, il ne pouvait s'empêcher de penser « C'est tout de même moi qui devrais être là, mais nous soignerons si bien Marcel qu'il ne pourra faire autrement que d'en réchapper, à moins qu'il n'y mette de l'entêtement. Comme ça, monsieur le docteur, nous allons nous rembarquer. » « Avez-vous à aller loin ? 3 heures, si les chevaux prennent le pas. Il n'est pas question de char pour un blessé qui sent toutes les secousses. Je vous procurerai une civière. Trouvez 4 gaillards qui se relaieront en chemin et je vous permettrai de partir à la fraîcheur du matin. » C'est ce qu'on fit. À la première lueur de l'aube, le petit cortège se remit en marche. Le docteur promit de monter aux alisiers avant le soir pour procéder au second pansement. Marcel, pâle et épuisé, ne faisait pas un mouvement sur la civière où on l'avait étendue. Mais sa pensée prenait les devants et cherchait Thérèse. Au moment où l'on sortait du village pour s'engager dans le chemin rocailleux qui prend la montagne en écharpe, un homme s'avança vivement à la rencontre de la petite troupe. « Patron ! » dit-il à voix basse en accostant Félix Prunelle. Celui-ci reconnut, à la lumière grise du matin, un des gars de la bande. Tout est en règle, sauf qu'une des meules a roulé au fond de la carrière. Les autres sont chez le marchand à l'heure qu'il est. Mais savez-vous qui nous a vendus ? C'est cette canaille de Léon. Félix Prunelle fit un soubresaut. Nous avons rencontré Simon au bord du Doubs. Il est au courant, on ne se gêne pas devant lui. Eh, qu'il nous fait ! Vous l'avez échappé belle. Voilà ce que c'est que les faux frères. J'ai rencontré ce matin Léon Tonin en grande conférence avec les douaniers. « Ma foi, que je me suis dit, si les loups s'entendent avec les chiens, il y aura quelqu'un de mordu. Tout ce que j'ai entendu, c'est ce mot, la charrière de la pâture à Martin. Mais vous voyez que ça se rencontre juste. » « Léon ne savait rien de nos plans, » dit Félix Prunelle, doutant encore. « Ce n'est pas tant sûr. Vous comprenez, quand on a su que vous étiez décidé à mener l'expédition, on est allé lui demander ce qu'il en pensait et on lui aura lâché un petit mot sur le jour et la route. » « Langue de commère que vous êtes !» s'écria Félix Prunelle. « Voyez la belle besogne que vous avez faite. C'est Marcel qui en pâtit, le pauvre garçon !» En parlant ainsi, le paysan ne pouvait se défendre d'une certaine émotion, émotion assez égoïste à la vérité, car il songeait moins au danger que courait encore Marcel qu'à celui auquel il avait échappé lui-même. Le soleil illuminait depuis quelque temps déjà les sommets aigus des sapins, quand la petite caravane parvint à une éclaircie de forêt d'où l'on dominait la ferme des Alisiers. « Je cours en avant pour prévenir Thérèse, » dit le fermier. Il trouva sa fille dans la cour. Elle allait et venait d'un air agité. « Enfin, vous voilà !» s'écria-t-elle. « Si vous saviez comme j'étais en peine !» Et dans sa joie, elle se jeta au cou de son père. Cette caresse le prit au dépourvu. Il y avait longtemps qu'il n'avait embrassé sa fille. Depuis le jour où Marcel est parti, c'est le premier baiser, et voici Marcel qui revient, se dit-il involontairement. « Oui, me voilà, » fit-il en prenant le bras de Thérèse et en emmenant la jeune fille à l'autre bout de la cour, afin qu'elle ne vît pas les hommes qui descendaient le sentier, portant la civière. Mais tout ne va pas bien malgré ça. « Quoi donc ? Vous avez eu du malheur ? On a confisqué le char ? Oh, vous savez, je déteste cette contrebande, vous ne devriez plus vous en mêler. » « On n'a pas confisqué le char, Thérèse, mais quelqu'un a été blessé, quelqu'un que je ne m'attendais guère à ramener chez nous. » Elle ouvrit de grands yeux et pâlit. Son père lut une question dans son regard. « Oui, c'est lui, c'est Marcel. »«
Il est mort !» s'écria-t-elle en se tenant au mur.
« Pas si malade que ça, tout de même. Nous le soignerons bien. » Elle n'écoutait plus, car les porteurs venaient d'entrer dans la cour. Lentement, faisant violence à son chagrin, elle s'approcha de la civière et se pencha vers le blessé.
« Mon pauvre Marcel !»
Il sourit. « Ça fait du bien de revenir au pays, mademoiselle Thérèse, » dit-il à demi-voix. « Quand même, j'aurais mieux aimé y revenir autrement. » Alvine accourait.
« Est-ce qu'il a été à la guerre ? » s'écria-t-elle.
« Chut !» dit Thérèse, « il ne faut pas faire de bruit. Va vite préparer un lit dans la chambre du Nord qui est fraîche. » On transporta bientôt Marcel dans cette grande pièce tranquille, aux volets à demi-clos et où les armoires à linge répandaient une douce odeur de lavande. Un peu plus tard, Thérèse vint elle-même voir si l'on avait bien pensé à tout, si Marcel avait soif, s'il croyait pouvoir dormir. Il allait la remercier quand elle lui mit doucement la main sur la bouche.
« Guérissez-vous d'abord, murmura-t-elle. Plus tard, on vous permettra de dire tout ce que vous voudrez. »
Il la suivit du regard comme elle s'éloignait. « Tout ce que je voudrais, » répéta-t-il, et il soupira. Vers le soir, le docteur arriva comme il l'avait promis. Il fit le pansement, donna quelques prescriptions et recommanda le repos le plus absolu pour empêcher la fièvre. « J'espère que vous voilà guéri de la contrebande, » dit-il à Marcel. Celui-ci se contenta de sourire, mais le fermier se sentit un peu honteux. Ce soir même, il prit une grande résolution. « Thérèse finira par tout savoir, » pensa-t-il. « Les confidences iront leur train pendant que ce garçon s'occupera à guérir. Il vaut autant que ma fille le sache de moi. » Aussitôt donc que les domestiques se furent retirés, il vint s'asseoir à côté de Thérèse, qui effilait du vieux linge en charpie, et lui fit ce que monsieur le curé aurait appelé une confession générale. L'engagement de Marcel, la lettre confisquée et brûlée, et les motifs tout au long. Thérèse l'écoutait silencieusement. « Eh bien, dit-elle enfin, vous avez réussi à nous rendre malheureux pendant 3 mois, c'est tout. » « Sauf pourtant, fit-elle en se reprenant avec vivacité, que ces embrouilles ont amené Marcel sur votre chemin cette nuit et qu'il vous a empêché d'être tué. »« Tiens, c'est vrai tout de même, mais je ne lui dois rien pour ça, Thérèse. Il s'est trouvé derrière moi par hasard et la balle l'a touché, voilà l'histoire. »« Oh, fille, dit-elle, si vous ne lui devez rien, moi je lui dois quelque chose puisqu'il m'a conservé mon père. » « Et comment le paieras-tu ? » demanda le fermier avec une certaine émotion. « Pourrais-je trop le payer pour un si grand service ?» Elle appuya sa tête sur l'épaule de son père avec un geste caressant. « S'il vous demande votre fille, vous ne la lui refuserez pas ? Laissez-moi tout dire, voulez-vous ? Il nous vaut bien. N'étiez-vous pas un garçon sans le sou quand vous vous êtes marié ? Vous me l'avez raconté 100 fois. » Nous resterons ici et nous travaillerons pour vous de tout notre cœur. Un autre gendre emmènerait votre fille. Vous seriez bien embarrassé de conduire ce régiment de servantes, de surveiller la laiterie et le jardin et les lessives. Pauvre père !» Thérèse ne put s'empêcher de rire à cette idée. « Vous n'aviez pas pensé à tout ça. Vous voyez bien que ma place est ici. Êtes-vous pressé de vous débarrasser de moi ? « Suis-je une méchante fille ?»« Très méchante, » dit-il en s'efforçant de prendre un ton courroucé. « Tu n'en as jamais fait qu'à ta tête, et ce sera toujours de même, j'imagine. »« C'est-à-dire que vous consentez ?»« Ah, minute, tu ne vas pas te proposer toi-même à ce garçon ?» Thérèse rougit. « Attends qu'il parle. Sais-tu s'il n'a pas laissé son cœur en voyage ?» Mais Thérèse avait lu dans les yeux de Marcel que s'il avait laissé son cœur quelque part, c'était aux Alisiers. Félix Prenel lui-même veilla Marcel cette nuit-là. Le malade avait peu de fièvre et dormit pendant quelques heures. Au matin, il ouvrit les yeux en entendant les voix familières des petits bergers qui conduisaient les vaches au regain. « Ça vaut mieux que de se réveiller dans une ville au bruit de la rue, » dit-il. « Tu n'es donc pas devenu trop monsieur ?» demanda le fermier en regardant les habits citadins de Marcel posés sur une chaise.
Tu pourrais endosser de nouveau la blouse.
Aussitôt que vous voudrez.
Oh, ne te presse pas, nous attendrons bien quelques minutes.
Tiens-toi donc tranquille, tu vas déranger l'appareil si tu remues comme ça.
C'est Thérèse qui passe dans la cour, la belle affaire. Tu la verras tout à l'heure sans te donner un torticolis.
Tu la verras tout à l'heure sans te donner un torticolis.
Marcel s'était soulevé pour suivre du regard une ombre qui venait de glisser derrière les volets entr'ouverts. Pendant cette journée et celles qui suivirent, Thérèse se multiplia. Elle dirigeait son monde comme à l'ordinaire, ne négligeait aucun détail de sa besogne quotidienne et trouvait moyen, avec cela, de songer à 1000 gâteries pour Marcel. L'après-midi, elle venait s'asseoir près de lui, son ouvrage à la main. Elle ouvrait la fenêtre pour qu'il jouît de l'air et des bruits des champs, elle lui apportait des fleurs et, sans causer beaucoup de peur de le fatiguer, elle le tenait au courant de ce qu'on faisait à la ferme, lui racontait ce qui s'était passé en son absence. Marcel jouissait silencieusement de ses heures paisibles et le repos de son esprit fut pour beaucoup dans sa rapide guérison. Au bout de 15 jours, le docteur lui permit de se lever. On avait écrit à Monsieur de la Lyre. Il répondit par une épître pleine de rhétorique un peu rococo et de sympathie réelle, promettant de venir voir le jeune artiste qui avait failli être fauché dans sa fleur. Marcel se mit à rire en lisant cette lettre. Il la tendit à Thérèse.
C'est le meilleur homme du monde, seulement il parle toujours comme s'il était le programme. J'espère bien qu'il viendra, vous aurez du plaisir à faire sa connaissance.
Depuis que le jeune homme était assez fort pour qu'on lui permît la conversation, il avait raconté à Thérèse les principaux incidents de ses 3 mois de voyage. Sans qu'il s'étendît sur le chapitre de ses succès, Thérèse devina bien des choses. Elle fut fière de Marcel. C'était un jour tiède et voilé du milieu d'octobre. Le convalescent était sorti pour la première fois. Appuyé sur le bras de Félix Prenel, il avait fait quelques pas dans le sentier. Il regardait autour de lui la vaste prairie, le petit plateau vert bordé de coudriers, la forêt où il espérait pouvoir monter bientôt, et il se sentait heureux de vivre. Le fermier, lui aussi, éprouvait quelque émotion. Pendant ces 15 derniers jours, il avait passé par bien des transes, épiant l'état du malade avec autant d'anxiété que Thérèse. La patience du jeune homme, sa gratitude pour les soins qu'on lui rendait, avaient remué le cœur du vieux paysan.
Marcel a beaucoup de bon, après tout, s'était-il dit en manière de conclusion. S'il me demande Thérèse, je ne réponds pas de moi.
Tandis que tous deux se promenaient ainsi, lentement et sans rien dire, Alvin accourut en levant les bras avec de grands gestes.
« Il y a là deux messieurs qui sont venus pour vous voir, » s'écria-t-elle tout essoufflée. « Des amis de Marcel et qui sont bien gentils, ma foi, surtout le plus vieux. Il nous faudra une fricassée de poulet pour le dîner, maître. »
Et elle repartit comme elle était venue, prête à immoler sa basse-cour à ce vieux monsieur si poli qu'il avait appelé « ma jolie fille ».
« Ah, mon cher Marcel, quel plaisir de vous voir sur pied !» s'écria Amédée de la Lyre, qui, avec son fils Edgar, s'avançait dans le sentier à la rencontre du jeune homme.
« Vous êtes pâle et aussi intéressant que possible. Nous sommes accourus ici, pour ainsi dire, entre deux mesures. Nous ne nous arrêtons que la longueur d'un point d'orgue, le temps de vous dire que vous nous manquez horriblement. »
« Je comprends maintenant, » dit Edgar à demi-voix en prenant le bras de Marcel.
« Nous avons vu la jeune personne. Elle est belle comme une princesse, ma parole !» Une légère rougeur monta au jour pâle de Marcel.
« Il n'y a rien à comprendre du tout, » fit-il vivement.
« Vrai ? Eh bien, c'est dommage !»«
Mais ce pays est charmant !» s'écriait le directeur. « C'est d'un pittoresque. Ces sapins noirs, ça fait frémir !» En hiver, ce doit être une solitude à y périr d'ennui pour dire toute ma pensée. À moins qu'on ne soit poète pour faire rimer frimas avec verglas. À moins aussi qu'on ne jouisse de la société de mademoiselle, ajouta-t-il galamment en se tournant vers Thérèse qui venait de rejoindre la société. La jeune fille portait une robe de mérinos bleu dont le corsage correctement ajusté dessinait sa taille souple.
Ses cheveux brillants étaient simplement relevés par un peigne d'écaille, coiffure qui s'accordait fort bien avec sa beauté sévère. Des mains soignées, le pied étroit, la tournure aisée, quelle belle fille, pensait le directeur. Marcel a beau dire, ils s'entendent très bien tous les deux. Rien qu'en se regardant, ils se comprennent. Tant mieux pour lui, tant pis pour nous, car Mademoiselle Thérèse nous l'enlèvera. Depuis Orphée, la beauté a toujours été un piège aux musiciens. « Venez vous rafraîchir un peu en attendant le dîner, messieurs, » dit la jeune fille. « Vous avez fait une longue course ce matin. » On s'assit à l'ombre dans le petit jardin. Après avoir bu à la convalescence de Marcel, on causa. Le directeur parla avec enthousiasme du talent et des succès de son jeune ami, qui fera fureur l'hiver prochain, s'il le veut seulement, disait-il. Cette brillante perspective ne semblait pas sourire le moins du monde à Marcel. « Quand serez-vous assez fort pour nous rejoindre ?»« On n'est jamais assez fort pour rompre de doux liens, Marcel, » lui souffla Edgar en style de madrigal. « À votre place, je serais heureux de rester ici, on y est bien. » Marcel fixait sur le fermier un regard interrogateur. « Eh bien, parle !» dit Félix Prenel en homme qui prend son parti. « J'ai entendu Thérèse te promettre qu'après ta guérison, tu pourrais dire tout ce que tu voudrais. »« Non, » répondit Marcel d'une voix basse mais ferme. « J'ai eu le temps d'y réfléchir dernièrement. Je ne peux plus rester aux Alizés parce que j'aime Thérèse. » Il dit cela d'un accent si profond qu'il se fit un grand silence. « Si c'est une façon de parler !» s'écria l'impétueux directeur en se levant d'un bond. « Je pensais bien qu'il gâterait toute l'affaire. »« Laissez-moi dire, Marcel, je suis votre père adoptif, votre père musical. »« Monsieur, faites-nous l'honneur d'accorder à Marcel la main de mademoiselle votre fille. »« Que Thérèse réponde, » dit le fermier, « je ne prends pas sur moi la responsabilité de ces folies-là. » Thérèse et Marcel s'étaient levés en même temps. Il lui tendit la main, elle y mit la sienne et ils furent fiancés ainsi. « Bravo !» s'écria Amédée de la Lyre, qui trouvait la cérémonie par trop silencieuse. « Ce dénouement démolit notre quatuor, mais j'applaudis quand même. » En cet instant, Alvine parut à la porte du jardin. « Le dîner est prêt, mademoiselle Thérèse !» Pour toute réponse, la jeune fille lui sauta au cou. « Que tu sois la première à qui j'annonce mes fiançailles » s'écria-t-elle. Les yeux d'Alvine s'ouvrirent démesurément. « C'est donc en règle, » dit-elle. « Eh bien, voilà la première chose raisonnable qu'on ait faite ici depuis longtemps. » Chacun se mit à rire et l'on entra dans la maison. Les fiancés étaient restés en arrière. « Je puis bien vous le dire maintenant, » murmura Thérèse en prenant le bras du jeune homme. « Ces 3 mois sans vous ont été les plus tristes de ma vie. Mais c'est vous qui avez le plus souffert de nous deux, mon pauvre Marcel. » « Chut !» dit-il en se penchant vers elle. « C'est un mot que je ne veux plus entendre. Il n'y a plus de pauvre Marcel. »